Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau temps du débat sur France Culture. Jusqu'à 19h, nous débattons d'une question concernant l'Algérie. Que reste-t-il des promesses démocratiques ? C'est l'histoire d'un journaliste algérien à la liberté de ton peu commune. Khaled Drarni a 40 ans et il est l'une des voix qui compte en Algérie. Au moins depuis 2014, quand son émission de débat, celle qu'il animait sur la chaîne Zahir TV, est suspendue pour s'être montré trop critique du pouvoir en place. Khaled Drarni est limogé, mais il se fait un nom et ne se laisse pas intimider. Dans la foulée, il fonde le site d'information Kajba Tribune, devient le correspondant algérien de TV5 Monde et de Reporters sans frontières. Il anime un talk show politique à la radio qui rencontre un large succès. Alors lorsqu'en 2019, le peuple algérien se soulève lors du Hirak, le mouvement en arabe, Khaled Drarni est l'un de ces journalistes qui suivent de très près les manifestations hebdomadaires. Il continue à le faire après la démission d'Abdelaziz Bouteflika et ce malgré des intimidations de plus en plus pressantes. Les services de renseignement algériens le convoquent à plusieurs reprises, lui demandent de cesser de couvrir les protestations en vain. Le 29 mars 2020, le journaliste est finalement arrêté et incarcéré pour atteinte à l'intégrité du territoire national et incitation à attroupement non armé. Son procès s'est tenu au début du mois d'août. Le verdict est tombé lundi 10, 3 ans de prison pour Khaled Drarni. Et pourtant, le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019 à l'issue d'une élection contestée par la rue, avait promis de répondre aux revendications du Hirak. Depuis son élection, il affiche une volonté de réforme, incarnée par un projet de modification de la Constitution, mais il poursuit, dans le même temps, il poursuit et accentue la répression à l'encontre de journalistes, de blogueurs ou de simples citoyens sympathisants du mouvement. Alors faut-il voir dans cette récente vague de condamnations le point final des espoirs démocratiques du peuple algérien ? Entre discours d'ouverture et tournant autoritaire, quel est le véritable agenda du nouveau président ? Le Hirak peut-il se transformer en véritable force et alternative politique ? Pour débattre de ces questions, nous recevons 4 invités ce soir. En ligne depuis Alger, Hakim Haddad, bonsoir.
Bonsoir à vous. Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur du RAJ, le Rassemblement Action Jeunesse, une des organisations algériennes impliquées dans le soulèvement populaire et dans les forces du pacte de l'alternative démocratique. Vous avez vous-même connu la prison. Vous y avez passé 3 mois entre octobre 2019 et janvier 2020. Vous êtes d'ailleurs actuellement sous contrôle judiciaire, placé sous contrôle par la justice algérienne au mois de juin. Également avec nous, Leïla Berato. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, ancienne correspondante de RFI, Radio France Internationale en Algérie. Vous vivez et travaillez à Alger. Nous recevons également Amel Boubekeur. Bonsoir. Amel Boubekeur, vous êtes sociologue, chercheuse à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez participé aux marches du Hirak. Vous êtes allée à la rencontre des manifestants pour observer, pour analyser le mouvement. Et puis pour finir, nous recevons Massensen Cherbi. Bonsoir à vous. Massensen Cherbi, qui n'est pas encore en ligne mais qui va nous rejoindre. Il est constitutionnaliste, docteur en droit de l'université de Paris 2 Panthéon Assas et auteur de l'ouvrage « Algérie » aux éditions De Bock Supérieur.
L'Algérie nouvelle commence par la mise en place d'une véritable démocratie. Cela doit passer d'abord par les fondations de la République, qui sont les assemblées locales, régionales et enfin nationales, pour réformer en profondeur la loi électorale. Parce que la nouvelle constitution fera émerger des contre-pouvoirs. Je ne suis pas en train de vous parler comme si j'allais gagner, je ne le sais pas, c'est le peuple qui le décidera. Mais il faut organiser de véritables contre-pouvoirs.
En français, les contre-pouvoirs.
Afin d'éviter que tout ce qui nous est arrivé depuis l'indépendance, les difficultés et les obstacles ne se répètent.
Il faut placer des contre-pouvoirs réels. باش الشيء اللي صار لنا في المسار نتاعنا في الاستقلال ما تكررش. نتمنى مثل كل الجزائريين.
Comme tout Algérien, je ne souhaite pas de pouvoir autoritaire. Il faut un véritable équilibre entre toutes les institutions du pays.
Vous venez d'entendre l'actuel président algérien Abdelmadjid Tebboune s'exprimer alors qu'il n'était encore que simple candidat au poste, ancien premier ministre tout de même, mais pas encore président. C'était en octobre 2019, deux mois avant la dernière élection présidentielle, sur la chaîne algérienne Etchorouk TV. Aujourd'hui, Tebboune est devenu président, il a commencé à engager des réformes. Où en sont, dix mois après le discours que vous venez d'entendre, les promesses démocratiques du candidat Tebboune? Hakim Haddad, vous qui avez participé au soulèvement de 2019 avec le Rassemblement Action Jeunesse. On a perdu Hakim Haddad, la liaison avec Alger est un petit peu compliquée ce soir. Leïla Berhatto, vous êtes bien là ?
Je suis là.
Alors vous êtes journaliste, vous avez suivi le soulèvement tout au long de 2019. On en est où des promesses démocratiques d'Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui ?
Alors il faut préciser quelles promesses, parce que si je me souviens bien du lendemain de son élection, et même du soir même de son élection, il y a eu un discours très long après qu'il ait remporté cette élection présidentielle, et puis il y a eu cette intervention devant toute une série de personnalités politiques et militaires dans lesquelles il expliquait les premières grandes lignes de son programme, et c'était un discours très large qui touchait toute une série de domaines et qui promettait des améliorations sur beaucoup de choses. Moi, je me souviens notamment qu'il ait fait des promesses sur la santé, qu'il ait fait des promesses sur les médias, qu'il ait fait des promesses pour les femmes, qu'il ait fait des promesses pour l'économie. Donc en fait, ce qu'il voulait à l'époque et ce que son entourage veut toujours, je pense, c'est montrer qu'il y a une différence avec le système politique qu'il y avait avant. Ça, c'est la volonté des autorités, c'est de montrer qu'il y a une différence. Et il y a des choses qui montrent cette volonté aujourd'hui. Je pense notamment au fait que le président Abdelmadjid Tebboune donne des interviews à des médias algériens. Alors évidemment, ce ne sont pas des conférences de presse ouvertes à tout le monde où tous les journalistes peuvent poser des questions. Il y a des directeurs de médias ou certains journalistes qui sont sélectionnés, qui viennent. Ceci est diffusé à la télévision. Mais avec toutes les critiques qu'on peut apporter à ce dispositif-là, c'est quelque chose que son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika, ne faisait pas. Donc il y a une série de petites choses comme ça. Je pense au fait qu'il ait aussi dit et demandé, en tout cas aux responsables locaux, qu'on appelle en Algérie les walis, de prendre des décisions tout seuls, de ne pas attendre que l'État central leur ordonne des choses. Il y a des petites choses comme ça qui montrent que les autorités actuelles veulent montrer qu'elles sont différentes. Maintenant, est-ce que cela suffit ? Il est clair que quand on écoute les Algériens, beaucoup de gens veulent plus et trouvent que ce qui s'est passé n'est pas satisfaisant. Après, il y a quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte, qui est qu'il y a un programme de réforme qui a été annoncé, mais les autorités, même pas deux mois après, se sont retrouvées, comme le monde entier, avec une pandémie de Covid-19. Donc ce sont des choses qu'on peut aussi prendre en compte dans l'analyse. Malgré tout, il y a une chose qui est certaine, c'est que pour une partie importante de la population, et notamment pour ceux qui participaient aux manifestations en 2019, ce qui a été fait comme réforme n'est pas suffisant aux yeux de ces personnes-là.
Amel Boubekeur, je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse à l'EHESS, que vous avez suivi de très près le mouvement du Hirak. Dans le discours d'Abdelmadjid Tebboune, comme vient de le rappeler Leïla Berhatto, il y a cette volonté d'afficher une volonté de réforme. Est-ce que ça se traduit dans les faits ? Amel Boubekeur ?
Attendez ?
Je vous entends, oui, allez-y.
La question qui se pose est celle de savoir, pour les dirigeants algériens, s'ils peuvent véritablement gouverner sans le peuple. qui s'est passé pendant les 20 ans de Bouteflika, c'est que la majorité des, ou en tout cas le contrat social qui était passé avec le peuple était tacite, c'est-à-dire plus de terrorisme, contre une redistribution des miettes de la rente et pas du tout de redevabilité des comptes au niveau officiel, pas de publication au journal officiel, des budgets publics, etc. Est-ce que on peut continuer comme ça? Pendant 20 ans, on a pensé au sommet de l'État que c'était possible et qu'on n'avait pas besoin du peuple. Aujourd'hui, Tebboune, en parlant de Sharia al-Haririya, de véritable légitimité, de crédibilité, en fait, il se rend compte qu'il a besoin de renouveler ses alliances au niveau local, national, comme il expliquait. Et le problème, c'est que aujourd'hui, le régime algérien n'a pas seulement de légitimité, mais non pas simplement de compétences et de capacités à proposer une alternative, en réalité, à cette gouvernance post-Bouteflika qu'il annonce comme une nouvelle ère, comme la fin d'anciennes pratiques mafieuses, sans pouvoir mettre en avant une véritable nouvelle gouvernance. Ce qui s'est passé depuis mars, la gestion du Covid en Algérie l'a très bien montré. Si le pouvoir algérien est capable de contrôler le pays, il n'y a aucun problème sur le plan sécuritaire, etc. A-t-il été capable de le gouverner? Contrôler et gouverner un pays, ce sont deux choses complètement différentes. Et peut-il gouverner ce pays sans l'adoubement des citoyens? On a vu qu'au début, il était très très difficile de faire respecter les mesures de sécurité minimale pour éviter la propagation du Covid en Algérie. Quand ces mesures ont été généralisées, elles l'ont été du fait même des citoyens qui ont décidé que oui, maintenant il était important de se protéger. Donc le pouvoir algérien peut-il continuer de gouverner sans le peuple? Il semble se rendre compte que non, mais dans un objectif qui n'est pas un objectif participationniste pour faire de l'Algérie une démocratie, mais plutôt dans l'objectif de renouveler des alliances clientélistes sur le plan local. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les appels récents de Tebboune à organiser des élections, à appeler la société civile à s'organiser sur le plan local pour soutenir son programme de réforme.
Alors, Hakim Haddad, militant algérien, cofondateur du Rassemblement Action Jeunesse qui a pris part aux manifestations, est de nouveau avec nous, normalement. Vous m'entendez?
Oui, normalement, absolument. Oui.
Alors, nous écoutions en ouverture une des allocutions du candidat Tebboune avant l'élection, oui, en octobre 2019, où il promettait des réformes démocratiques, une ouverture du régime. Quel constat faites-vous 10 mois après ce discours? Y a-t-il une inflexion dans la politique menée par le nouveau gouvernement et par le nouveau pouvoir par rapport aux années Bouteflika?
J'irai dans le sens un peu de la précédente intervenante. C'est qu'en fait, les peuples, l'Algérie tout autant, ne se dirigent pas qu'avec des promesses et ça ne se dirige pas qu'avec des vœux pieux. Tout ce que nous constatons, en fait, nous l'avons déjà vécu d'une autre manière, avec une autre façade pendant au minimum les 20 dernières années du temps du bouteflikisme. Donc, c'est des promesses. Il a effectivement dit que ça se construirait, l'Algérie nouvelle ou son Algérie nouvelle se construirait sur la démocratie. Nous n'avons pas la même vision de la démocratie, puisque pour M. Tebboune et pour ceux qui entourent M. Tebboune, la démocratie, c'est mettre des journalistes en prison, entre autres Khaled Drarni, c'est mettre des citoyens qui font des alertes de telle ou telle chose grave qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est mettre des militants et des activistes du Hirak en prison ou devant des juges ou devant des procureurs. Nous n'avons pas la même notion de la démocratie. Pour l'instant, rien, absolument rien, et ça me désole de le dire, mais rien n'a changé véritablement depuis la période précédente dans la pratique réelle. Alors effectivement, ensuite, les vœux, les promesses sont faites peut-être aussi et surtout à l'adresse de l'opinion et des gouvernements au niveau en dehors de l'Algérie. C'est pas tant pour les Algériens. Les Algériens vivent exactement la même situation, en plus grave, tant à cause de la crise sanitaire, bien évidemment extrêmement mal gérée et gérée de manière très amateur par le gouvernement, mais vivent aussi encore plus difficilement, puisque les interpellations, les condamnations, les arrestations, les emprisonnements, il n'y a jamais eu autant que depuis l'avènement de cette soi-disant nouvelle nouvelle république algérienne.
Alors on va revenir dans un instant justement sur cette reprise de la répression à l'encontre de la société civile en Algérie. Mais tout d'abord, Massène Sencherbi, constitutionnaliste, docteur en droit de l'université de Paris 2. Est-ce une réaction sur le son sur les promesses d'Abdelmadjid Tebboune qu'on écoutait en ouverture de cette émission et sur leur devenir aujourd'hui?
Le problème, c'est que ces promesses visant à réviser la Constitution se font sur le fondement de la Constitution en vigueur, qui est une Constitution extrêmement autoritaire et qui ne laisse qu'au président de la République l'initiative de réviser la Constitution, c'est-à-dire une Constitution qui ne peut être révisée que par le haut, et non une Constitution qui peut être révisée par le bas, c'est-à-dire par une Assemblée constituante.
Alors, on ne vous entend pas très bien, je crois que vous êtes à l'extérieur et qu'il y a du vent. Je vais vous laisser trouver un endroit où vous mettre à l'abri. On reprendra juste après cette discussion. Donc revenons sur le tournant répressif auquel on semble assister ces dernières semaines, ces derniers mois en Algérie. J'en parlais en introduction, la justice a multiplié les poursuites judiciaires, les condamnations et en particulier de journalistes. Alors outre la condamnation de Khaled Drarni, on attend le 24 août un autre verdict concernant un autre journaliste, le directeur d'une web radio qui est accusé d'atteinte à l'unité nationale. Il y a un site web assez populaire, le site satirique El Manchar, qui a été fermé par les autorités le 13 mai. Leïla Berato, vous qui êtes vous-même journaliste exerçant en Algérie, quel est le but du gouvernement? Il s'agit d'éteindre absolument toute forme de contestation, de reprendre la main sur la presse qui était un peu trop libre peut-être ces derniers mois. Comment l'interprétez-vous?
Alors moi je suis pas dans les petits papiers du gouvernement, donc je ne sais pas pourquoi ces décisions sont prises. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de décisions. Vous parliez de El Manchar. Alors El Manchar n'a pas été fermé par les autorités, mais le fondateur a préféré fermer le site et il a cité le contexte actuel. Il y a effectivement un certain nombre de sites internet dont l'accès est bloqué depuis l'Algérie et pour lesquels il faut un VPN pour pouvoir lire les informations qui sont dessus. En 2019, le site TSA avait lui aussi été bloqué. On parle de Khaled Drarni, mais il y a aussi Monsef Haït Kassi, qui est un journaliste qui a travaillé pour France 24, qui s'est retrouvé mis sous mandat de dépôt et puis libéré le lendemain, accusé d'avoir travaillé sans accréditation, alors que un certain nombre, aujourd'hui, je dirais même une majorité, de correspondants pour les médias étrangers n'ont pas d'accréditation, soit parce qu'ils ne l'ont pas demandé et qu'ils ne souhaitent pas la demander, soit parce qu'ils l'ont demandé et ils n'ont jamais eu de réponse. Il y a également d'autres journalistes qui sont le sujet d'un certain nombre de pressions. Je vais citer juste l'exemple de mon confrère Mustapha Benjema, qui vit dans la ville d'Annaba, donc qui est une ville à l'est de l'Algérie. Mustapha, au cours des derniers mois, de l'année et demie qui vient de s'écouler, a été arrêté une demi-douzaine de fois, a reçu environ une vingtaine de convocations officielles par la police et est toujours sous le coup d'un procès pour lequel il a été relaxé, mais pour lequel le procureur a fait appel et il doit être jugé en septembre. Donc il y a une sorte d'ambiance très pesante aujourd'hui pour les journalistes en Algérie. La condamnation de Khaled Drarni a provoqué beaucoup de stupeur en fait au sein de cette profession. J'ai un certain nombre de confrères qui m'ont dit avoir pensé ce jour-là que ça aurait pu être eux qui étaient condamnés à 3 ans de prison et que ça pouvait arriver à n'importe qui. Mais la contrepartie de ça, et je pense que c'est important de le souligner quand même, c'est que la profession s'organise, et moi je travaille en Algérie depuis 2012 et je n'avais jamais vu une telle mobilisation de la profession. Ce sont des journalistes qui se réunissent, qui signent des pétitions, qui écrivent des communiqués, qui manifestent. Alors oui, c'est pas une manifestation avec 3000 personnes, mais ça reste des choses qui sont notables. Et il ne faut pas oublier que ceci se passe après le 22 février 2019 et que les journalistes, comme le reste de la société, sont traversés par cette dynamique d'envie de changement.
Merci Leïla Berato. Hakim Haddad, vous avez été arrêté en octobre dernier, vous avez passé 3 mois en prison en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous est arrivé? Est-ce qu'on assiste aussi ces dernières semaines, ces derniers mois, à un tournant répressif du nouveau pouvoir algérien, ou est-ce que finalement ça s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est passé depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika?
Oui, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci de cette question. En fait, c'est une continuité, c'est pas un nouveau tournant. Il y a l'automne et l'hiver dernier, il y a eu des arrêts. La répression était féroce. Et en fait, je dirais qu'elle a été suspendue un mois et demi entre janvier, la prise de fonction de M. Tebboune, jusque début février, même pas la mi-février. Et ensuite, ça a recommencé, ça a repris de plus belle et de manière encore plus féroce, je dirais, qu'auparavant. Les arrestations et les condamnations, jusqu'à la dernière condamnation de Khaled Drari, sur laquelle je reviendrai, à 3 ans, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Donc, en fait, c'est une continuité de la logique de ce pouvoir, et à sa tête, ou en tout cas à sa tête visible, M. Tebboune. C'est comme ils n'ont pas de légitimité, comme ils n'ont aucune crédibilité, comme leurs élections du 12-12 sont entachées d'une très grosse illégitimité, ils veulent à tout prix et le plus vite possible, avant la disparition, nous osons l'espérer, ou en tout cas l'éloignement de la crise sanitaire, ou en tout cas du virus, de la pandémie que vit le monde actuellement, avant la rentrée sociale et avant la reprise de l'ensemble des activités, ils pensent qu'ils vont entre guillemets, excusez-moi ce terme, mater les citoyennes et les citoyens pour qu'ils, à travers la répression et à travers tout ce que nous subissons ces derniers mois, mais encore une fois, ce n'est qu'une continuité, le pouvoir toujours le même, qui n'a pas changé, qui a changé juste sa façade présidentielle, continue à réprimer. Nous parlons en ce moment, et fort heureusement, énormément du cas de Khaled Drari et de la liberté de la presse, mais en fait le pouvoir, on a l'impression, en tout cas visiblement, par échantillon. Donc il a commencé et il continue jusqu'à hier encore et jusqu'à aujourd'hui, cette même matinée, à interpeller à travers l'ensemble du territoire national des citoyens, des militants ou des activistes du Hirak plus ou moins en vue. Ça, c'était dans un premier temps. Ensuite, il a fait passer un amendement au code pénal de manière très, très rapide pendant le mois de Ramadan, en pleine pandémie du Covid-19, etc. Un amendement sur le code pénal où toute personne pourrait être condamnée dans l'absolu en retransmettant à travers les réseaux sociaux. Je ne veux pas les citer pour pas faire de pub, mais Facebook en l'occurrence. En Algérie, combien de citoyens ont été interpellés, ont été condamnés à de la prison ferme, jusqu'à 18 mois de prison ferme, parce qu'ils ont montré, ils ont filmé, ou ils ont montré à travers des images, des irrégularités, des choses qui ne devaient pas se passer, que ce soit dans les hôpitaux, devant les mairies, le comportement de certains policiers dans certaines villes, etc. Donc ça a été pour mettre le holà, ou en tout cas tenter de mettre de holà sur les citoyens. Et maintenant, effectivement, ou en tout cas encore plus maintenant, la presse qui subit, à travers l'exemple de Khaled Drari, la répression du pouvoir. Donc c'est une continuité. Le pouvoir, dit des choses mais fait exactement le contraire, et en fait c'est comme l'a dit Madame Berato, c'est à côté de ça, le Hirak, les activistes, les citoyens et encore plus ces derniers jours se préparent à la rentrée, s'organisent, que ce soit pour la reprise des marches ou pour de nouvelles initiatives telles des conférences, la société civile s'organise, des partis politiques tentent bon an mal an de s'organiser, etc. Voilà, donc malgré la répression du pouvoir, malgré la répression des autorités, malgré la totale fermeture de la presse réellement libre, essentiellement celle qui est sur Internet.
Malgré tout ça, le mouvement continue et la société civile continue à résister.
Se prépare de nouveau.
Et le plan du président algérien pour la rentrée, c'est justement une réforme constitutionnelle qu'il souhaite voir soumise au référendum dans les mois de septembre ou octobre. Son projet de révision de la Constitution, il l'a présenté le 8 mai dernier. Écoutez-le et l'expliquez sur France 24, c'était le 4 juillet dernier.
Vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers-monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens. Aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau, qu'on fasse de l'opposition aux idées, on oppose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective. Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. On va vers un régime semi-présidentiel qui donne énormément d'autorité aux élus, notamment à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que l'Assemblée nationale va proposer elle-même des lois, que l'Assemblée nationale aura le droit de créer toutes les commissions de contrôle qu'elle veut sur un sujet, sur un ministère, sur un secteur ou autre, et on tiendra compte de leurs opinions. Ils vont contrôler la gestion du gouvernement. Et en même temps, on est en train de mettre beaucoup de verrous qui interdiront à l'avenir tout glissement vers le pouvoir personnel.
Voilà, c'était Abdelmadjid Tebboune, président algérien, qui explique les grandes orientations de la réforme constitutionnelle qu'il souhaite porter pour la rentrée 2020. Je crois qu'on a retrouvé Massensen Cherbi, constitutionnaliste. Vous êtes avec nous ?
Effectivement.
Alors, est-ce que l'on retrouve les grandes orientations que vient de résumer Abdelmadjid Tebboune dans l'avant-projet, dans le détail des textes de cet avant-projet qui a été présenté le 8 mai dernier ?
Alors, ce projet du 7-8 mai dernier, en réalité, conserve l'essentiel des prérogatives exorbitantes du président de la République, qui ne sont pratiquement pas touchées, ne touchent pratiquement pas aux prérogatives léoniennes du président de la République, qui reste seul à l'initiative de la révision de la Constitution, seul à l'initiative du référendum, qui dispose du pouvoir réglementaire autonome, qui peut décréter l'état d'urgence, l'état de siège, l'état d'exception, qui peut dissoudre l'APN, qui nomme les walis, les généraux, le tout sans aucun contrôle parlementaire a priori, sans aucun contrôle sein ministériel non plus, sans pouvoir encourir aucune responsabilité politique ou pénale, voire même un hypothétique recall. C'est-à-dire qu'en réalité, au-delà d'un certain nombre d'annonces, le cœur de la Constitution, c'est-à-dire les pouvoirs du président de la République, n'ont pratiquement pas changé, et ce depuis la Constitution de 1976 du colonel Boumédienne, et même ils ont été renforcés par l'avant-projet de révision de la Constitution, puisque celui-ci propose d'introduire un vice-président de la République qui, à la différence du vice-président américain, qui lui est élu en même temps que le président américain, celui-ci serait nommé facultativement par le président de la République et pourrait lui succéder en cas de démission ou de décès. Ce qui permet au régime de se pérenniser par ce biais, au-delà de la limite des deux mandats présidentiels. Par ailleurs, cet avant-projet ne touche pas du tout, ne répond pas du tout à la grande revendication de la Daoula Madania, de l'état civil et non militaire, qui est totalement absente de ce projet.
Chirac. Tout à fait, oui. Qu'en est-il justement du rôle de l'armée dans ce projet de constitution ? On sait qu'elle a un peu fait et défait les présidents algériens depuis l'indépendance en 1962. Quel est le rôle qui est prévu officiellement dans les textes pour cette armée algérienne ?
Alors, c'est paradoxal. En réalité, dans la constitution algérienne, depuis 1976, l'article 28 relatif à l'armée, qui n'est pas touché dans l'avant-projet, date de la constitution de 76 et remonte même à la charte nationale de 76, nonobstant les questions relatives au socialisme qui ont été supprimées. L'armée n'a pas de rôle politique dans la constitution algérienne. Pour autant, s'agit-il d'une constitution Potemkin, à la différence des constitutions sud-américaines, hein, qui donnaient un pouvoir à l'armée, un pouvoir de garant à l'armée, qui donnent encore un pouvoir de garant à l'armée, un pouvoir de garant de la constitution. Rien de tel dans la constitution algérienne. Néanmoins, il faut savoir que ces pouvoirs exorbitants dont bénéficie le président de la République, encore une fois, remontent à la constitution de 76, qui a été faite, écrite, rédigée pour le colonel Boumédienne, qui était à la fois le président formel du pays, mais aussi le chef réel de l'armée. Et donc, finalement, l'armée n'a pas de pouvoir dans cette constitution-là, mais son candidat, lui, dispose des pleins pouvoirs à travers cette constitution-là.
Alors, il y a, je reviens à cette révision constitutionnelle présentée en mai dernier, il y a quand même des signes qui semblent positifs, ou en tout cas qui sont avancés comme positifs par le pouvoir algérien, notamment la consécration de la liberté de réunion, de la liberté d'association, ainsi que l'inscription du Hirak, le mouvement démocratique, au préambule de la Constitution. Est-ce que ce ne sont pas quand même des petites victoires, Amel Boubekeur, vous qui êtes sociologue et avez suivi de très près les manifestations et les revendications du mouvement Hirak?
Il faut savoir qu'il y a eu tout un débat et toute une réflexion sur la question constitutionnelle au sein du Hirak, au sein de comités locaux, dans des villages d'ailleurs, qu'il n'y avait pas une pré-socialisation politique très importante. Et tous ces débats ont été niés. Il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de débat public, il n'y a pas eu d'invitation des Algériens à participer à ce projet. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que les Algériens se sentent peu concernés et ils avancent souvent l'argument que c'est plutôt un geste à l'encontre des partenaires étrangers de l'Algérie. Je pense que c'est quand même une question importante qui n'a pas été traitée encore dans cette émission. C'est vraiment ce rapport exclusiviste du pouvoir algérien dans sa relation avec l'étranger. Je crois que ce qui a profondément gêné dans le cas Khaled Drahmi, c'est effectivement son écho à l'international, sa capacité d'apporter un récit alternatif au récit qui était vendu par le pouvoir algérien. Et en fait, cette relation exclusiviste, bon, elle a des causes très, très prosaïques, très terre-à-terre, hein, la majorité de ces dirigeants ont des intérêts dans les pays tiers, financiers, ils ont leurs enfants qui sont dans des universités à l'étranger, etc. Mais elle a aussi une cause un peu plus fine qu'on pourrait trouver dans la psyché justement du pouvoir algérien. C'est l'idée en fait profondément ancrée chez ces dirigeants que le peuple algérien n'est pas capable de se diriger tout seul et que l'état de déliquescence dans lequel se trouve le pays n'est pas dû à leur propre incompétence, mais à la capacité la nature algérienne de pouvoir s'organiser, de pouvoir se mettre d'accord, etc. Et en fait, cette haine de soi qu'avaient déjà souligné des psychanalystes de confession juive pour les communautés juives qui avaient subi beaucoup qui avaient beaucoup d'exactions et qui finissaient finalement par avoir une image dépréciée de soi, elle existe dans la société algérienne, elle a été partagée par un certain nombre d'Algériens. Et ce qui est très important, c'est que le Hirak avait dissipé tout ça. Les valeurs d'autonomisation, d'auto-organisation, d'une appartenance pluriculturelle, pluriethnique, sans que ça pose de problème, de concertation, etc. Le Hirak les avait mises en avant. Et ça a profondément décontenancé en réalité le pouvoir algérien qui n'a pas su comment gérer. On appose à cet élan qui continue d'ailleurs parce que le Hirak c'est aussi une culture politique nouvelle. Donc il y a eu effectivement un essaimage d'un certain nombre d'initiatives dont Hakim Haddad parlait à l'instant. Et donc, ce qui a profondément dérangé et déstabilisé le pouvoir algérien, cette culture alternative qui répondait à cette haine de soi, à cette idée que l'Algérien était incapable de s'organiser et que par conséquent, il ne fallait surtout pas aussi, entre parenthèses, qu'il ait des contacts avec l'étranger, parce que je ne vous apprends rien en disant ça, mais le gouvernement algérien reçoit, lui, des fonds d'étrangers. Les fonctionnaires algériens sont formés dans des programmes bilatéraux ou multilatéraux avec la Commission européenne, avec d'autres pays tiers. Mais il y a une chape de plomb sur la volonté des Algériens d'amener à l'extérieur une vérité alternative, tout en étant extrêmement conscient en fait des possibilités d'ingérence étrangère, et le Hirak l'a refusé très fermement, cette ingérence étrangère. Eh bien, cette volonté d'auto-organisation, elle est niée et on la remplace par ce projet de constitution, ce projet de réforme, mais qui, encore une fois, ma question principale ne pourra pas être conduite sans le peuple et le Hirak, avec les valeurs nouvelles justement donc, que je mentionnais à l'instant, qu'il a apporté, qu'il a remis en branle au sein de la société algérienne, pourrait encore avoir un mot à dire justement sur ce récit alternatif du changement.
Que reste-t-il des promesses démocratiques en Algérie? C'est la question que l'on se pose sur France Culture jusqu'à 19h.
قبل الورقة خايف شمعة طفالي
طفالي
ستيلو معمر مسهرني ليالي
ليالي
عذروني أهلي لاش تلوموني ها
هكدا فحالي
يا كمالي
حايب نشوف بلادي في العلالي
العلالي
مشينا دي كيلومتر مع لامبات الله يرحم اللي مات في الظلمات شابي بغرقات كي لافوت نمشي وكوتا كوت للمامات حكموها لي سكيزوفران ابري عشرين سنة بدات تبان داوي بانو لي بان لابات يا كدو لا زويرات صندوق الانتخابات سي بون جو ناس عويلات السلمية كليكات وفروات قلب زير الديفيزات او لا لا خوا خوا كاع الولايات
France Culture, le temps du débat d'été, Camille Diao. La voix de Timor, un jeune chanteur algérien qui chante « Le peuple veut », c'est le titre de cette chanson composée à la suite du Hirak, le soulèvement populaire entamé le 22 février 2019 en Algérie. Que reste-t-il des promesses démocratiques? C'est la question que l'on se pose jusqu'à 19h. Hakim Haddad du Rassemblement Action Jeunesse, quelles sont aujourd'hui concrètement les demandes du mouvement populaire, le Hirak que nous évoquons depuis le début de cette émission? Est-ce que le mouvement demande une nouvelle constitution?
Voilà, ouais, je voulais justement revenir sur votre question précédente, qui est en fait la même que vous posez, c'est sur la constitution et ce que propose le pouvoir à travers M. Tebboune, leur nouvelle constitution. En fait, en Algérie, je parle devant des conseils au moins constitutionnalistes, chaque président qui arrive fait sa propre constitution chaque président arrive et se fait sa propre constitution sur mesure. Voilà, avec l'appui bien évidemment de l'autorité et le soutien de l'autorité militaire. Et M. Tebboune veut faire exactement la même chose, y compris effectivement pour plaire à l'opinion publique internationale ou en tout cas à l'étranger. Ils prennent pas du tout le problème par le bon bout. Et de toute façon, ça ne nous étonne pas parce que c'est leur démarche depuis 1962. Le Hirak, comme l'a expliqué Madame Bouker tout à l'heure, c'est depuis les premières semaines ou les premiers mois, en tout cas du Hirak, c'est les gens du Hirak, les associations, les citoyens à travers des collectifs, des partis politiques, se sont déjà réunis et ont proposé des démarches. Les manifestations qui avaient lieu le vendredi et le mardi, à travers les étudiants, faisaient la même chose. La demande est d'avoir une nouvelle constitution qui soit écrite, qui soit pensée, qui soit réfléchie, qui soit décidée avec la population. Il est hors de question, il n'est plus possible d'accepter ce qu'ont fait tous les autres présidents et M. Bouteflika par 3 ou 4 fois d'ailleurs, que les constitutions soient décidées par le haut et imposées à la population. Donc aujourd'hui, la population, la société civile de manière générale, refuse globalement et dans le détail ce qui est proposé, le brouillon on ne rentre même pas dans les détails de ces propositions, c'est la démarche en elle-même qui est refusée par les acteurs et les actrices du Hirak. Pour en arriver à votre question, oui, effectivement, la société civile a des propositions. Bien sûr, nous n'avons pas d'ores et déjà une constitution écrite, mais il y a des gens, les constitutionnalistes, des gens de droit, qui, dans la société civile, pourraient proposer ça dans les prochains mois. En tout cas, la plateforme et les revendications du Hirak, c'est entièrement à l'opposé de la démarche du pouvoir actuel. C'est une période de transition. C'est avoir une période de transition où, avec un gouvernement éventuellement d'union nationale ou autre, et aller ensuite à l'écriture à la mise en place d'une nouvelle assemblée nationale avec, dans l'éventualité, éventuellement la possibilité qu'elle écrit par elle-même la constitution, qu'elle propose par elle-même au peuple la constitution, ce qui serait une constituante. Donc, et il y a des initiatives qui se préparent. Je ne peux pas dévoiler les choses aujourd'hui parce que déjà comme ça, on a du mal à organiser. Alors si en plus on dévoilait publiquement les choses, ce serait même plus possible. Il y a des initiatives qui se préparent, qui dans les annonces vont être faites dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines, d'initiatives qui iront dans le sens de ce que propose et ce que revendique le Hirak depuis toujours.
Leïla Berhato, vous êtes journaliste.
Monsieur Haddad évoque des initiatives qui se préparent. Est-ce que vous jugez que le Hirak, un mouvement spontané, horizontal, né de manière presque désorganisée de la société civile, est-ce que qu'il a la capacité, selon vous, de se transformer en véritable force politique, de proposer une alternative à ce qui existe aujourd'hui au pouvoir en Algérie ?
Alors déjà, moi j'ai un souci, c'est-à-dire que il faut définir ce qu'est le Hirak, et je pense que malheureusement aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs utilisent le mot mais ne mettent pas le même sens derrière. Et c'est important de savoir de quoi on parle, parce que ça évite du coup les généralités et de dire des choses, et là je parle d'un certain nombre d'acteurs en Algérie, et d'éviter la complexité. Il n'y a pas un Hirak uniforme aujourd'hui. Il y a eu un mouvement de protestation qui demandait du changement, qui a englobé un certain nombre d'Algériens, et je dirais même beaucoup d'Algériens. Mais ces Algériens-là, ensuite, ont eu des comportements différents. Qu'est-ce qu'on appelle Hirak ? Est-ce que Hirak, ce sont les gens qui ont manifesté une fois ou deux fois au cours des 18 derniers mois ? Ou est-ce que ce sont les gens qui y vont tous les vendredis ? Est-ce que ce sont les associations ? En fait, il y a une volonté de changement global dans la société. Mais tout le monde ne met pas les mêmes mots derrière le mot changement. Il y a ceux qui voudraient, qui sont au chômage depuis des années et qui voudraient un travail. Il y a ceux qui sont dans une famille et qui ont subi de l'injustice, soit judiciaire, soit policière, et qui voudraient que cela n'arrive plus. Il y a des gens qui aimeraient que le système scolaire soit meilleur pour leurs enfants. Il y a d'autres personnes qui aimeraient que les libertés soient respectées. Donc en fait, la problématique aujourd'hui, c'est que il n'est pas complètement possible, pour plusieurs raisons, que chacun puisse exprimer ce qu'il souhaite comme changement. Il y a aujourd'hui une impossibilité de parler de façon complexe sur ce que les Algériens souhaitent comme changement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les associations ou la société civile dont vous parliez tout à l'heure n'ont encore pas la possibilité de se réunir et de s'organiser comme elles veulent, parce qu'il faut encore des autorisations pour se réunir, parce que juste avant la pandémie de Covid-19, certains ont essayé de se réunir et se sont vus opposer des interdictions. Donc vous disiez tout à l'heure, les autorités ont quand même fait un geste et veulent la liberté d'association, mais les associations n'ont toujours pas d'autorisation de se réunir, et il y a effectivement des associations qui ont essayé de travailler pendant la pandémie et qui se sont vues interdire l'accès aux hôpitaux, qui se sont vues confisquer les stocks de masques qu'elles avaient, qui ont été réquisitionnés par les autorités, et on a dit à ces associations, les dons ne peuvent aller qu'à la pharmacie centrale. Or, deux ou trois semaines après, le responsable de la pharmacie centrale était arrêté et mis en cause dans des affaires de détournement de dons. Donc on est dans un moment où il est très difficile pour la société société civile de se réunir et de s'organiser, mais elle continue à le faire. Et en parallèle, il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner. Il est aujourd'hui très difficile d'avoir une opinion qui est différente de ce qui serait une opinion, disons, qui verrait tout le mouvement de protestation complètement rose. Il est aujourd'hui très dur d'avoir une période d'une parole très critique, et un certain nombre d'acteurs le soulignent. Donc, comme la parole critique est difficile, comme la capacité d'organisation est difficile, si les choses ne changent pas, ça va être difficile pour cette société civile dont vous parliez d'apporter des solutions. Mais aujourd'hui, la société civile algérienne et les gens qui ont manifesté sont en train de s'organiser et sont plus organisés qu'il y a deux ans. Ça, c'est absolument certain.
Massensen Cherbi, très rapidement, il nous reste un peu moins d'une minute. Est-ce que la jeunesse algérienne a encore des raisons d'espérer, selon vous ?
Elle a encore des raisons d'espérer si elle peut devenir souveraine. Et pour qu'elle puisse devenir souveraine, il faut qu'elle puisse décider elle-même de la constitution, des lois fondamentales, de la loi fondamentale de son pays. Et cela ne peut se faire qu'à travers le BAC, à travers cette jeunesse et l'ensemble du pays, c'est-à-dire par une assemblée constituante et non une constitution octroyée par un monarque présidentiel.
Merci beaucoup Massensen Cherbi d'avoir participé à ce temps du débat. Merci également à Hakim Haddad, Leïla Berhato, Amel Boubker. C'est donc ainsi que se conclut cette émission consacrée au devenir de l'Algérie, un an et demi après le début du Hirak. Merci à ceux qui ont préparé cette émission, Sophie Alavi, Nicolas Berling, Audrey Dugas, Mathilde Tonfourcade, Alexandra Delbo. À la technique ce soir, Valentin Bobinet. À la réalisation, c'est Doria Zénine. Et puisqu'on parle d'Algérie, petit conseil, ne manquez pas cette semaine sur France Culture la grande traversée consacrée à Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, figure de l'anticolonialisme, qui a vécu en Algérie, qui s'est battu pour son indépendance et qui y est désormais enterré. Une série en 5 épisodes à retrouver tous les matins de la semaine sur France Culture à 9h ou alors en podcast sur notre site web. Demain, dans les matins d'été, il sera question des divergences des luttes féministes. Quant à nous, on se retrouve à 18h15 demain soir avec une nouvelle question. Reprise épidémique, faut-il blâmer la jeunesse ? À demain donc, et très belle soirée sur France Culture.